regarder et pénètre ces lieux, je risquerai d'apprendre les secrets que je ne dois pas connaître.
Dans le secret des dieux, épisode 72 et nouveau concept Olympus numéro 1. Et ce concept, je vous l'explique en un mot, je vais vous parler à chaque nouvel épisode de 15 albums que je considère comme intéressants, importants. Alors évidemment, ce sont mes goûts, ce sont des albums que j'apprécie et que je souhaite évidemment partager avec les auditeurs du secret des dieux. Alors je comptais appeler cette série à l'origine la discothèque du Mont Olympe ou un truc dans le genre, mais bon voilà, c'est un petit peu trop long, alors Olympus, ça suffira. Et en voici le premier épisode, et vous allez remarquer très rapidement que la plupart d'entre eux datent des années 90, forcément, puisque je ne me suis pas beaucoup creusé la tête pour cette première liste, puisque j'ai noté tous les albums qui me venaient spontanément à l'esprit, sans trop réfléchir, et puis eh ben, forcément, il y en a un certain nombre qui font partie de ceux que j'ai découverts pendant l'adolescence, pendant ma découverte du métal, pendant la formation de ma culture musicale, et qui s'est faite en grande partie dans les années 90. Alors, cette liste, elle est classée dans un ordre pseudo-alphabétique. Je dis bien pseudo-alphabétique parce que je ne suis pas forcément les lettres des noms des groupes à la lettre, justement. Il y a certaines lettres qui comportent moins de groupes, forcément, d'autres qui en ont de plus. Par exemple, il y a beaucoup de groupes dont le nom commence par la lettre M. Donc là, j'en ai mis un petit peu plus. Voilà, il n'y a pas vraiment de règles, il n'y aura pas vraiment de thème. Évidemment, je ne vais pas mettre de la musique en extrait ici pour des questions de droit. J'ai pas envie que le podcast saute à cause de ça. Donc, comme d'habitude, il y a une playlist Spotify qui va accompagner l'épisode et vous pourrez aller écouter tout ça si toutefois vous ne connaissez pas déjà ces albums, parce que là, il n'y a pas énormément de choses, on va dire, vraiment underground ou des petites perles cachées, même si je pense qu'il y en aura quelques-unes à l'avenir. Mais là, la plupart des groupes, la plupart des albums dont je vais parler sont considérés pour la plupart comme des chefs-d'œuvre ou des classiques. Donc voilà, il n'y a pas de surprise. Mais voilà, ça me fait plaisir de partager. Et puis il y a toujours des gens qui ne connaissent pas tous ces albums. Et je vous invite, chers auditeurs, dans les commentaires, notamment sur YouTube et sur Facebook, à partager également les albums qui vous sont chers. Alors ça sert à rien de me faire une liste de 50 titres, hein. Quelques-uns ça suffit. Et puis si j'en connais pas quelques-uns, j'irai éventuellement les écouter, voir si je suis de votre avis ou pas. Alors le but de l'opération, c'est pas non plus de passer des heures à décortiquer chaque album, comme on le fait déjà dans l'Agora. Là, c'est vraiment donner un aperçu, une envie d'écouter l'album en le citant, en donnant quelques informations, et puis en essayant de pas dépasser la minute ou les deux minutes par album. Voilà, pour que ça se passe assez vite, c'est plutôt une shopping list, on va dire. Une liste de recommandations plutôt que la critique vraiment élaborée de ces albums. Voilà pour la petite introduction, alors on va commencer par le premier album. Alors il s'agit de l'album Dirt du groupe Alice in Chains, qui est sorti en 1992. Alors, c'est un album que je réécoute régulièrement. Donc Alice in Chains, c'est un groupe qui est considéré comme grunge, comme faisant partie de la scène grunge. Alors moi je suis pas tout à fait d'accord, ils sont un petit peu plus métal que ça. Après voilà, il y a des petits... on va dire, il y a des petits points communs avec les autres groupes de la même scène. Et Alice in Chains, c'est un groupe qui a sorti en tout 6 albums, donc c'est pas énorme, hein, sachant que le premier est sorti en 1990, donc en un peu plus de 30 ans, 6 albums seulement, donc ça fait pas une grosse moyenne. Sachant que le groupe s'est séparé en 1996, je crois, ben, suite au décès du chanteur Lane Staley, pour revenir en 2009. Donc voilà, il y a un gros hiatus de plusieurs années, ce qui explique aussi la discographie peu fournie du groupe. Alors Dirt, c'est un album qui sort en 1992, c'est leur deuxième album. On est dans le style typique de Alice in Chains, avec des morceaux globalement assez simples sur le plan musical, hein, des riffs assez directs, pas extrêmement techniques, mais des riffs bien trouvés, avec une grosse influence des années 70, mais dans un contexte plus métal, avec une belle distorsion, un beau son de guitare, et puis surtout ce chant extraordinaire de Lane Staley, donc qui est le vocaliste principal, mais qui est appuyé en harmonie hein, par le guitariste et principal compositeur Jerry Cantrell, qui aujourd'hui est toujours dans le groupe, hein, puisque, bon, c'est essentiellement son groupe. Alors la particularité du chant sur Alice in Chains, c'est qu'il est souvent harmonisé de la sorte, donc et harmonisé toujours de la même manière, c'est-à-dire en quarte, en perfect fourth, comme diraient nos amis américains. Donc voilà, Dirt, c'est un petit chef-d'œuvre, du grunge si on veut, pour moi c'est quand même nettement plus métal, mais bon, on peut accepter l'appellation grunge. Alors tous les titres sont vraiment bons, hein, mais il y en a qui sortent vraiment du lot, donc les deux morceaux d'ouverture, Them Bones, Damn That River, la troisième, When I Die, c'est quasiment ma préférée de l'album. Down in a Hole, qui est une espèce de balade vraiment triste sur la consommation de drogue. Il y a Rooster, qui est l'hommage de Jerry Cantrell à son père qui a fait le Vietnam, le vétéran du Vietnam. Et puis voilà, Angry Chair à la fin, Wood, qui est peut-être le morceau le plus connu de Alice in Chains. Donc voilà, premier album, Alice in Chains, Dirt, 1992. Si vous ne le connaissez pas, écoutez-le et vous m'en direz des nouvelles. Deuxième album de cette sélection, il s'agit de l'album For Victory du groupe anglais Bolt Thrower, donc Bolt Thrower, groupe de death metal, plutôt lourd hein, que rapide, plutôt basé sur le gros son et les riffs pachydermiques. Moi c'est un groupe qui m'a beaucoup influencé, alors j'aime particulièrement cet album For Victory, qui est leur cinquième album, voilà, qui est sorti en 1994, parce que non seulement il est pour moi le meilleur album de Bolt Thrower, avec des titres comme l'intro d'ouverture War, Remembrance, ou le morceau de fin Armageddon Bound, et puis le morceau titre For Victory. Donc c'est du Bolt Thrower typique, hein, vous savez que Bolt Thrower a une tendance à faire un petit peu le même album tout le temps, pour essayer de trouver une espèce de perfection. Alors pour moi, il l'avait déjà atteinte sur For Victory, qui en plus est doté d'une production absolument dantesque. Hein. Pour moi, alors ça je l'ai déjà dit sur ce podcast, hein, pour moi la production des albums, notamment de death metal, de la première moitié des années 90, c'est l'apogée de la production metal. Avec des mecs comme Colin Richardson, je pense que voilà, on est arrivé là à un niveau exceptionnel entre, on va dire, qualité sonore puissante et puis reproduction hi-fi parfaite, c'est-à-dire c'était avant l'époque de la compression. Et voilà, la production, c'est Colin Richardson qui la même année a sorti, a produit un album aussi que je vais citer juste après, qui bénéficie du même type de son, absolument énorme. Et pour moi, ça fait complètement partie du charme de cet album. Et pourquoi aussi il vieillit pas, c'est-à-dire une production comme ça, voilà, ça vieillit pas, c'est pas daté. C'est toujours d'actualité et ça surpasse même pour moi l'essentiel des productions modernes. Donc voilà, For Victory, c'est du death metal à l'anglaise et un peu lourd. On est dans quelque chose d'assez lancinant et puissant. Et voilà, ça, si vous ne connaissez pas cet album, il faut foncer. Et pour ce qui est du troisième album de cette sélection, alors si vous avez compris le petit indice que j'ai pu donner juste avant, il s'agit de Carcass, également anglais, donc groupe de Liverpool qui a commencé comme du grindcore pour s'orienter vers du plutôt un genre de death metal et passer vers un metal, on va dire, plus mélodique. Ils ont plus ou moins initié ce qu'on a appelé ensuite le Göteborg metal en Suède. Hein. Ils font partie des pionniers qui ont instauré de la mélodie et des côtés plus heavy metal au death metal avec cet album. Donc, il s'agit de Heartwork, donc c'est leur quatrième album. Il est sorti en 1993, d'ailleurs j'ai dit une petite erreur tout à l'heure en parlant de 1994. Cet album de Carcass est antérieur à l'album de Bolt Thrower, il date de 1993. Il est produit évidemment par Colin Richardson, il est donc doté d'un son absolument monstrueux qui n'a pas pris une ride. Et cet album, c'est tout simplement un chef-d'œuvre absolu du métal pour moi, hein, toutes catégories confondues. Les morceaux sont tous excellents. Le son, le jeu, les compos, le chant, les textes sont parfaits. Alors, Carcass était déjà connu par des textes un peu particuliers. Déjà, bon, ils utilisaient une imagerie médicale qui était originale, qui a été bien bien copiée depuis. Mais surtout, les textes étaient d'une grande complexité. Donc c'est un petit peu moins le cas ici, mais ils sont quand même très intéressants. Alors, avec des thèmes qui tournent toujours autour de la mort, etc. Bon, ça reste très métal. Voilà, c'est un album qui est à la fois puissant et mélodique, alors il y a des riffs d'anthologie. Et je me souviens d'avoir feuilleté alors c'était pas tout à fait à l'époque, c'était peut-être quelques années plus tard, un magazine de guitare anglais qui était un petit peu snob, hein, mais qui s'était intéressé à cet album et qui proposait des transcriptions tablature à la guitare de cet album en disant que c'était quand même assez extraordinaire. Tous ces riffs, tous ces solos. Alors, à noter évidemment la présence sur cet album du guitariste suédois Michael Amott, qui va ensuite faire parler de lui avec Arch Enemy, que personnellement j'aime pas trop, sauf peut-être les deux premiers albums. Et puis Spiritual Beggars, alors là, que j'aime beaucoup mieux. Et puis là, qui fait des merveilles sur les solos. Mais sachant que vraiment le style de jeu ici, c'est vraiment celui de Bill Steer, qui a un jeu très particulier, qui fait beaucoup de micro bend, qui fait beaucoup de vibrato et qui se sent même sur les riffs rythmiques, pas seulement sur les leads. Et vraiment, chez Carcass, et particulièrement sur cet album, un style assez unique que le groupe va essayer de reproduire après sa reformation, avec un petit peu moins de succès au niveau des compos, mais pour le reste, c'était quand même assez réussi. Donc voilà, un grand classique que cet album qu'il faut absolument connaître. On repasse de l'autre côté de l'Atlantique, hein, avec ma quatrième sélection. Il s'agit du groupe américain Dark Angel. Donc Dark Angel, c'est du thrash metal. Mais c'est du thrash metal un peu particulier, puisqu'ils ont vraiment lorgné sur le death metal, hein, très tôt. Leur musique était beaucoup plus violente et brutale que, par exemple, Metallica ou Exodus. Ils sont formés très tôt, en 81, donc c'est un très vieux groupe et c'est vraiment un pionnier. Alors Dark Angel n'a pas connu le succès de Metallica et consorts, mais ça reste un groupe culte qui a sorti des albums cultes. Alors très peu d'albums, seulement 4. Et celui dont je vais vous parler, c'est le deuxième, c'est celui qui est peut-être le plus connu, qui s'appelle Darkness Descent, donc qui date de 1986, qui est très très brutal, hein, pour l'époque. Moi je le trouve même plus brutal que Rain in Blood de Slayer. Et il a la particularité d'être le premier album sur lequel enregistre le fameux batteur Gene Hoglan. Donc voilà, un des tout meilleurs batteurs de métal encore à ce jour, c'est encore vrai. Alors Darkness Descent, c'est un album, comme je l'ai dit, ultra violent. Il a pas mal influencé les groupes américains à venir de death metal par sa violence, puis par sa thématique très très sombre. Hein. On parle d'apocalypse nucléaire, on parle de Sodome et Gomorre, on parle d'euthanasie, on parle... Alors le morceau titre Darkness Descent fait référence aux Dark Judges dans Judge Dredd. D'ailleurs, il y a une ligne du comic qui a été reprise pour le refrain. Et puis on peut remarquer une petite curiosité, c'est que il y a une partie de batterie dans le morceau titre Darkness Descent, donc qui ouvre l'album, qui a été complètement pompée par Lars Ulrich de Metallica pour le morceau One. Donc c'est flagrant, hein, si on écoute les deux, c'est exactement la même chose, c'est ce truc avec de la double grosse caisse suivi par un coup de caisse claire. Donc voilà, tous les titres sont des tueries, Darkness Descent, The Burning of Sodom, Hunger of the Undead, Merciless Death. Cet album, c'est un best-of du thrash brutal. Bon, thrash metal, excusez-moi, je prononce au moins une fois correctement. Donc un grand classique sorti le 17 novembre 1986. On retourne en Europe et on monte vers le nord, en direction de la Suède, évidemment. C'est un nid de groupe à métal. On reste dans le métal extrême avec Entombed, qui est un groupe culte de death metal suédois, qui est le groupe qui a popularisé l'emploi de la fameuse pédale HM2 avec le Buzzsaw Guitar Sound. Alors, c'est du death metal suédois, hein, typique, Swedish death metal. Le groupe a été formé en 87 et l'album que je sélectionne ici est leur premier, qui s'appelle Left Hand Path et a été produit par Thomas Skogsberg. Alors c'est un album qui a un peu plus vieilli, je dirais, que les albums produits par Colin Richardson, parce que ce fameux Buzzsaw Guitar Sound, il est quand même très daté, hein, années 90, et notamment début années 90. Il est très géographiquement marqué aussi, hein, il est très suédois, même si ce son a été utilisé par la suite, notamment par la vague Revival Swedish Death, par des groupes qui n'étaient pas suédois, mais qui ont copié ce style-là. À ce jour, moi, je pense que Left Hand Path est peut-être un des deux, trois meilleurs albums de ce style, peut-être même le meilleur, avec beaucoup de titres qui sont des tubes death metal, sachant que le Swedish death metal, sa particularité, notamment par rapport au death metal américain, est d'être, malgré une certaine violence quand même, et d'être un peu plus rock'n'roll, de se prendre peut-être un petit peu moins au sérieux. D'ailleurs, il y a même un peu de voix claire par moment sur Left Hand Path. Alors voilà, tout est culte dans cet album. La musique, la production, le fameux son Buzzsaw, et puis l'artwork de Dan Seagrave, voilà, donc, qui est emblématique aussi du metal extrême des années 90. Donc voilà, Entombed Left Hand Path. Alors on retourne aux États-Unis, on sort un peu du metal extrême pour l'album suivant. Il s'agit d'un album de Faith No More, donc c'est un groupe aussi très connu, hein, qui a connu un certain succès. Et son album culte, hein, il n'y avait pas beaucoup de surprises, c'est Angel Dust, alors que j'adore. C'est un album qui est sorti en 1992. Alors c'est le dernier album avec le guitariste original du groupe Jim Martin qui s'est barré après. Et puis c'est le premier album sur lequel le fameux chanteur Mike Patton pose sa patte véritablement. Alors il était déjà présent sur l'album d'avant, The Real Thing, qui est très bien aussi, que j'aime beaucoup, mais Angel Dust, on va dire, ça met la barre un petit peu plus haut. Donc voilà, bon, là tous les titres sont extraordinaires. Le groupe continue à jouer beaucoup des titres de cet album encore maintenant. Hein. Et puis sa particularité surtout, c'est d'être très varié. Hein. Alors il y a du chant, un peu crooner, il y a du chant un peu agressif, il y a du chant un peu rappé. Il y a des ballades, il y a des morceaux plus violents. Alors toute proportion gardée, on n'est pas dans le métal extrême. Alors moi j'aime beaucoup le début d'album notamment. Alors voilà les trois premiers titres, Land of Sunshine, Caffeine, Midlife Crisis. On a un peu plus tard Be Aggressive, dont le refrain en fait est scandé par des espèces de pom-pom girl, ce qui est un petit peu original. Alors l'album contient aussi, dans la ressortie qui a eu lieu en 93, un titre supplémentaire qui est une reprise de Lionel Richie qui s'appelle Easy. Alors qui ressemble beaucoup à l'original, mais je la trouve encore mieux chantée moi. Alors moi j'aime beaucoup cette chanson, je trouve Faith No More, en n'ayant pas pris beaucoup de risques en la reprenant quasiment telle qu'elle, a un petit peu l'a rendue un peu supérieure à mon goût. Voilà. Donc c'est juste mon goût. Voilà, donc Faith No More, Angel Dust, et c'était ma 6e sélection. On reste aux États-Unis. On retourne dans le thrash metal, le thrash, avec un groupe un peu particulier, hein, c'est un groupe un peu plus international, même si on est aux États-Unis, et c'est le groupe qui a été fondé par Dave Lombardo suite à son départ de Slayer. Alors, il a fait Fantomas aussi, hein, mais voilà, le premier groupe de metal un peu plus extrême dans lequel il a joué ensuite, c'est Grip Inc. Donc, c'est un groupe qu'il a formé avec Waldemar Zorichta, donc qui est un guitariste d'origine polonaise mais basé en Allemagne, dont on reparlera dans ce podcast plus tard, parce que c'est un personnage vraiment intéressant et important dans le métal, à mon avis. Waldemar Zorichta à la guitare, et puis le chanteur Gus Chambers. Et Grip Inc. va sortir un premier album qui s'appelle The Power of Inner Strength, donc qui est déjà vraiment intéressant, parce que ça montre une facette du thrash un peu différente du thrash classique. Ça ne ressemble ni vraiment au thrash américain ni au thrash allemand, c'est différent, c'est un peu plus moderne. C'est un peu plus osé. Et puis le groupe sort avec son deuxième album une bombe absolue qui s'appelle Nemesis. Donc ça reste un pur produit des années 90, on est en 1997. La production est énorme, elle est signée Waldemar Zorichta lui-même, puisque en plus d'être guitariste, même multi-instrumentiste, il est aussi producteur. Il a produit beaucoup de groupes Century Media. Et là, franchement, cet album qui est relativement court, un petit peu plus long que Rainblood quand même. Il fait moins de 40 minutes, mais il est relativement court. Là, on n'a que des tueries dans un style que moi je qualifierais de néo-thrash. Alors le groupe s'est fait qualifier de groove metal, un peu à la Pantera, tout ça. Moi, je trouve que c'est pas du tout exact. C'est parfois très technique. Il y a des morceaux très complexes. Je pense par exemple à War Between One. Les parties rythmiques sont extrêmement difficiles à la guitare. Voilà, sinon il y a des tubes, hein. Le premier morceau, Pathetic Liar, évidemment Rusty Nail qui a eu droit à un clip, Scream at the Sky qui est très étrange pour du thrash metal. Voilà, c'est un album intéressant, c'est très varié, le chant est excellent, les parties de guitare sont excellentes, et évidemment Dave Lombardo à la batterie, c'est quelque chose. Donc voilà, c'est un album, c'est un classique pour moi que je ressors régulièrement. Donc Grip Inc. Nemesis, 1997. Le 8e album de cette sélection est un grand classique du hard rock, c'est un incontournable, donc je pense que la plupart d'entre vous le connaissez, à défaut de l'aimer. Il s'agit de Appetite for Destruction de Guns N' Roses. C'est un album qui sort en 1987 et qui rend les membres du groupe célèbres instantanément. Appetite for Destruction, c'est ce qu'on appelle dans le monde de la musique un instant classique, c'est-à-dire il est devenu culte immédiatement. Après, en termes de qualité musicale, il n'y a pas grand-chose qu'on peut lui reprocher. Hein. Il est excellent. Les morceaux les plus connus du groupe, quasiment, sont tous là-dessus. Hein. Welcome to the Jungle, Night Train, Paradise City, Sweet Child O' Mine, évidemment. Alors, moi, parmi mes préférés, il y a des morceaux un petit peu moins connus. Il y a le deuxième morceau, It's So Easy, qui est vraiment cool. Et puis le dernier, Rocket Queen, qui est un des meilleurs morceaux de l'album, à mon avis. Alors, Guns N' Roses, c'est du hard rock un peu teigneux, bien années 80, un peu Large John of Van Life. Et ce que j'aime particulièrement dans ce groupe, encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un grain, il y a une production, il y a un son de guitare et un toucher qui est vraiment unique à ce groupe-là. Alors, qui est lié en grande partie à Slash, à son son de guitare. Mais il y avait ça quand même dès le départ, et il semblerait que le guitariste de l'époque, Izzy Stradlin, ait plus ou moins dit que c'est lui qui avait trouvé ce son caractéristique. Voilà. Après, voilà, je sais que les deux parties, une fois le guitariste hors du groupe, se sont un peu pris la tête par médias interposés, donc comment démêler la réalité de la fiction de ça, c'est un petit peu compliqué. Mais il semblerait que Izzy Stradlin ait eu une grande influence sur la musique et le son caractéristique du groupe à l'époque. Donc voilà, Appetite for Destruction, vous le connaissez sans doute, mais si c'est pas le cas, il faut quand même l'écouter. Il n'y a pas que le metal extrême dans la vie, il y a des très très bons disques de hard rock, voire même de rock tout court, d'ailleurs c'est possible que j'en conseille quelques-uns plus tard. C'est un album qu'il faut connaître quand on écoute du metal, je pense, voilà, c'est un grand classique. Je parlais tout à l'heure avec Carcass l'influence énorme qu'avait eu l'album Heartwork sur la scène de Göteborg, la scène suédoise de death metal mélodique. Et bien là, je vais vous parler d'un de ses meilleurs représentants, du moins dans les années 90, parce que c'est un groupe qui a complètement perdu sa crédibilité aujourd'hui. Il s'agit de In Flames. C'est un groupe formé à Göteborg en 1990 par Jesper Strömblad, donc qui ne fait plus partie du groupe aujourd'hui, mais qui est l'artisan derrière les meilleurs albums du groupe, hein, qui appartiennent au passé, hein, je pense qu'on est tous d'accord. Et alors là, c'est un petit peu compliqué pour sortir un album du lot. Peut-être que j'en citerai un autre à l'occasion d'un autre épisode d'Olympus. Mais en fait, celui qui me vient à l'esprit immédiatement, moi, c'est Colony. Colony, l'album de 1999, qui est celui qui a fait un petit peu exploser le groupe. Enfin, un peu moins que Cleman, mais le groupe était déjà largement connu grâce à la sortie de Colony. Alors pour moi, c'est un des tout meilleurs albums du genre, hein, de ce qu'on appelle le Göteborg Metal, donc du death metal mélodique, très mélodique, donc du death metal infusé au heavy metal plus traditionnel, mais avec un chant un petit peu plus extrême. Et voilà, et Colony, pour moi, ben voilà, c'est très tubesque. Finalement, c'est très hard rock derrière tout ce vernis de metal extrême, avec notamment un morceau que je trouve extraordinaire, qui est le second, qui s'appelle Ordinary Story, que j'adore, que je vous mettrai dans la playlist. Et voilà, c'est quand je reviens sur In Flames, ça m'arrive de temps en temps, c'est celui-là que j'écoute. J'aime aussi évidemment le précédent, hein, Warracle, qui est aussi considéré comme un classique. Et puis Cleman, que j'aime peut-être un petit peu moins, mais qui est super intéressant, puis qui a un gros son aussi. Alors voilà, c'est du Göteborg Metal, avec un son bien suédois, made in Fredman Studio. Je pense que c'est un album qu'il faut connaître. Et puis surtout, c'est un genre qui appartient plus ou moins à l'histoire maintenant. Alors, il existe toujours des groupes dans ce style, mais en fait, le tour de la question a été fait dans ce style, hein, évidemment. Alors, l'autre groupe emblématique, c'est Dark Tranquillity. J'en parlerai une prochaine fois, puisque aussi ont sorti un, voire plusieurs albums qui méritent d'être dans cette liste de recommandations. On passe au 10e album de la liste. Là, il s'agit d'un album sorti par un groupe dont on parle malheureusement trop peu, à mon goût, que j'adore, qui s'appelle King's X. Donc, c'est un groupe américain qui est né en 1979 quand même, hein, mais qui a sorti son premier album en 1988. Donc, ils ont mis quasiment 10 ans à sortir leur premier album. Ce premier album s'appelait Out of the Silent Planet. Alors, il vaut le détour, mais celui dont je vais parler, celui que je recommande, c'est leur second album, qui s'appelle Gretchen Goes to Nebraska et qui date de 1989. Alors, Gretchen Goes to Nebraska, c'est considéré comme le meilleur album de King's X, c'est pas pour rien, puisque c'est un véritable chef-d'œuvre. Cela dit, King's X a sorti d'autres albums vraiment dignes d'intérêt. Il n'est pas impossible que j'en cite d'autres à l'occasion d'autres épisodes d'Olympus. Voilà, celui-là, c'est le plus évident, donc je l'ai cité en premier. Il comprend notamment le plus gros tube, entre guillemets, de King's X, qui s'appelle Over My Head, qui est le second titre. Moi, je dois dire que Duke Pinnick, qui est un noir américain, est peut-être mon chanteur préféré, tout style confondu. J'adore sa voix, qui est vraiment... il a une bonne voix chaude de black, mais il chante des, voilà, il chante dans un groupe vraiment hard rock, ce qui est une particularité qu'on rencontre assez peu, donc ce qui lui donne un côté assez unique. Alors la musique de King's X a deux particularités. La première, c'est que c'est un power trio, donc ils sont juste trois. Et c'est un groupe qui, un peu à l'instar de Rush, bien que ce soit moins technique que Rush, est un groupe avec un côté assez progressif. Il y a beaucoup de parties un petit peu complexes dans leur musique. Il y a des harmonies vocales, notamment à trois, qui sont assez complexes. Il y a une certaine emphase sur le chant. Hein. Le chant est très important dans King's X. Les trois musiciens du groupe chantent. Alors, c'est Duke Pinnick, le chanteur principal, mais les deux autres chantent aussi. Et c'est un groupe qui n'a jamais changé de line-up de toute son existence. Alors ça, c'est un truc assez extraordinaire aussi. Voilà, alors King's X, c'est extraordinaire, notamment cet album, parce que derrière ce côté hard rock, metal, etc., il y a un côté soul, il y a un côté groove qui est très original. Les membres du groupe sont tous des fans des Beatles, ça se sent un petit peu. Mais ça doit pas faire peur aux gens qui connaissent pas et qui se disent « bon, c'est du rock chiant, etc. » Non, ça reste du hard rock, ça reste même assez metal, quasiment heavy metal par moment. C'est très très accrocheur tout en étant très original. Donc voilà, Gretchen Goes to Nebraska, 1989. Un essentiel dans une collection d'amateurs de metal, à mon avis. Alors le 11e album de cette sélection est peut-être l'album le plus récent de ma liste, bien qu'il ait... ouais, il a 16 ans. 16 ans pour l'album le plus jeune de ma liste. Il est sorti en 2006. C'est un album de metal extrême du groupe Melekech. Il s'agit de leur album de 2006, Emissaries, donc est sorti chez Osmose Productions. Alors moi déjà à l'époque, dès que j'ai entendu le premier titre, Rebirth to Nemesis, ça m'a foutu une baffe monstrueuse, j'avais jamais entendu ça. C'est à la fois ultra furieux, avec des super riffs, tout en ayant une ambiance orientale. Donc alors Melekech, c'est avant tout le groupe du guitariste-chanteur Ahmedi, hein, c'est lui qui compose quasiment tout. Et c'est lui qui a la vision pour ce groupe. Emissaries, c'est leur meilleur album à ce jour, ça pour moi, il n'y a aucun doute. Les morceaux sont tous excellents. Il y a beaucoup de riffs, c'est le festival de riffs. Les riffs sont tous très inspirés. C'est du metal extrême, mais il y a une inspiration quand même très thrash metal, très thrash, avec ce petit côté, voilà, ce petit côté oriental qui est vraiment bien foutu, sans être exagéré non plus. Même si tous les concepts sont autour voilà, du Moyen-Orient, etc., de la mystique du Moyen-Orient notamment. L'album n'est pas du tout linéaire, les morceaux ne se ressemblent pas, ce qui est relativement rare dans le métal extrême, notamment quand c'est assez bourrin, quand ça blaste pas mal. On note aussi qu'en milieu d'album, ils ont eu l'intelligence de mettre un morceau un peu différent, donc il s'agit d'une reprise du groupe The Tea Party, donc il y a un groupe de rock avec des influences orientales également, et donc le morceau s'appelle Gyroscope, donc la reprise est très réussie. Voilà, dans l'ensemble, l'album est très bon. Ce n'est pas le seul album de Melekech digne d'intérêt à mon avis, mais pour moi c'est vraiment leur meilleur et c'est un grand classique du metal extrême pour moi. Je pense qu'il a l'âge suffisant pour qu'on le désigne comme tel. Et si vous ne l'avez pas écouté, eh ben, vous aurez la chance de le découvrir comme moi je l'ai découvert, parce que la première écoute était vraiment phénoménale, j'étais vraiment scotché. Et puis c'est un album que je ressors régulièrement, notamment pour écouter les deux premiers titres que je trouve assez fabuleux, notamment le second, Ladders to Sumeria, qui est extraordinaire, c'est un festival de riffs, c'est une salade de riffs. L'album suivant est un grand classique du death metal, c'est pas moi qui le dis, c'est à peu près unanime. Il s'agit d'un groupe qui tombe un peu en désuétude aujourd'hui, hein, qui est un petit peu dans son lit d'hôpital, hein, en train de mourir de sa belle mort. Il s'agit de Morbid Angel, et l'album en question, c'est Altars of Madness. Alors, pour Morbid Angel, c'est assez compliqué d'en choisir qu'un, parce que les quatre premiers sont quand même extraordinaires. Altars of Madness, Blessed as a Sea, Covenant, Domination. Mais je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Altars of Madness, c'est le plus culte, c'est un grand classique. Dès sa sortie, il a un petit peu cassé des genoux. Alors, il date de 1989, il est sorti sur Erec, en mai 89 précisément. Alors, Morbid Angel, c'est un groupe qui existait déjà depuis longtemps avant de sortir ce premier album. Ils ont mis un petit peu de temps avant de le sortir, mais bon, ça valait la peine, puisque outre les morceaux qui sont excellents et qui ont eu le temps d'être affinés au cours du temps, d'ailleurs avec des morceaux tous composés par leur guitariste un petit peu cinglé et génial Trey Azacthot. Il bénéficie aussi d'une très bonne production, donc il vieillit bien. Hein, ça, on est sur du Tom Morris, donc Morris Sound Studio. Donc on est sur du death metal, évidemment old school pour aujourd'hui, mais qui a vieilli extrêmement bien. On n'est pas sur du blast tout le temps, on est sur une ambiance très morbide. Nom du groupe oblige, Morbid Angel. C'est un album qui est très diversifié, ce qui est également relativement rare dans le death metal. Il y a des choses très étonnantes, très curieuses, il y a beaucoup d'imagination. Je pense notamment à l'espèce de break à la basse sur le deuxième titre, Suffocation. Et puis il y a ce chant assez particulier de David Vincent. Donc pas aussi particulier, pas aussi bizarre, pas aussi étrange que celui de John Tardy sur Obituary, par exemple, enfin, dans Obituary. Mais c'est pas juste un grognement sourd, comme on a pu l'avoir par exemple dans des groupes comme Cannibal Corpse, ce genre de groupe. Donc on a un chant très intelligible, mais qui reste néanmoins très sombre et très extrême. Donc Altars of Madness, Morbid Angel 1989, je pense que c'est un incontournable et c'est une faute de ne pas le connaître. Le 13e album de cette sélection vient d'un groupe qui me tient beaucoup à cœur, que je réécoute d'ailleurs beaucoup en ce moment, après l'avoir un petit peu mis de côté, c'est le groupe portugais Moonspell. Alors il n'y aura sans doute pas beaucoup de groupes portugais dans mes sélections, parce qu'il n'y en a pas tant que ça digne d'intérêt. Alors Moonspell a sorti beaucoup d'albums vraiment intéressants, mais celui que je retiens dans leur longue et belle discographie, c'est Sin Pecado, qui est leur troisième album. Alors Sin Pecado, ça veut dire Sin, ça veut dire péché également en portugais. Alors c'est un album qui date d'une période très particulière, qui sont les années 90, une partie des années 90, de groupes signés chez Century Media qui se sont mis à expérimenter un petit peu. Donc là on est sur du gothic metal, mais un peu plus expérimental, avec des choses un petit peu différentes de ce qui se faisait à l'époque. Il y a l'inclusion de choses électroniques, il y a des ambiances et des influences qui viennent d'ailleurs que le métal. Et l'album est une grande réussite. Il est extrêmement bien produit par Valdemar Zorichta. Il est extrêmement bien composé. On dirait que cet album a été conçu pour devenir rester un classique, c'est-à-dire la construction de l'album, hein, qui s'écoute comme on regarde un film, est tout à fait logique et tout à fait est très bien pensé. On est dans quelque chose d'un peu similaire à ce que Tiamat a pu faire avec A Deeper Kind of Slumber, qui date aussi de la même période. Et Tiamat qui était également signé chez Century Media et qui a pris des risques, qui a essayé de faire des choses différentes. Alors ça n'a pas forcément plu aux fans. C'est un peu pareil pour Sin Pecado. Des fans de la première heure les ont un petit peu lâchés, parce qu'ils n'étaient plus dans cette espèce de gothic metal emphatique. C'était dans quelque chose d'un peu différent. Mais c'est un album qui a extrêmement bien vieilli, qui peut s'écouter aujourd'hui comme s'il était sorti avant-hier, et puis dont les compos sont extraordinaires et figurent parmi les meilleurs du groupe à ce jour, ce qui en fait un de mes grands classiques. Je passe au 5e album d'un groupe anglais absolument culte, donc qui a commencé dans le grindcore, qui en fait toujours un petit peu partie, hein, même s'il y a eu des incartades dans le death metal. Voilà, c'est un groupe culte du milieu du metal extrême, c'est un groupe anglais qui est né en 1981, c'est bien sûr Napalm Death. Et cet album, alors celui-là ne fait pas forcément l'unanimité, mais moi c'est mon préféré du groupe, il s'appelle Fear, Emptiness, Despair. C'est aussi un album un petit peu expérimental pour le groupe, qui essayait des choses un peu différentes. Alors moi je trouve que les riffs tuent, je trouve que la production tue, je trouve que le chant de Barney tue. Voilà, dans le metal extrême, pour moi c'est un album qui revient souvent. Je trouve que Napalm Death est un groupe qui a toujours été un peu en avance sur son époque, dans tout ce qui est death metal, il a influencé énormément de groupes. Et puis surtout, il a une science du riff. Ils sont super forts pour trouver des bons riffs, des riffs intéressants. Il y a rarement du remplissage chez Napalm Death, du moins après les premiers albums vraiment greencore que j'ai un petit peu de mal à écouter. Mais ça, c'est une question de goût, hein, parce qu'ils sont évidemment très bons dans ce style. Et après Utopia Banished, hein, l'album précédent de 92, qui était bon, mais qui avait un côté un peu pâteau en fait, un peu comme l'album d'avant aussi qui a marqué le tournant vers le death metal, Harmony Corruption, qui date de 90. Il y a un côté pâteau et il y a un côté un peu monocorde qui peut lasser sur la longueur. Fear, Emptiness, Despair, il y a un petit peu plus de variété aussi dans les compos, ce qui fait qu'on n'a pas le temps de s'ennuyer. L'album est fini et tu te dis, ah déjà. Voilà, ce qui, je le répète encore une fois, est relativement rare pour moi dans le métal extrême, où il y a un côté parfois un peu autoroute, c'est-à-dire que passé les premiers titres, on a tendance à entendre toujours un peu la même chose, ce qui n'est pas le cas dans Fear Emptiness Despair, ce qui en fait pour moi un classique du groupe. Sachant que les albums qui vont venir juste après, en fait tous les albums des années 90 suivant Fear Emptiness Despair de Napalm Death sont tous très très bons. Hein. De toute façon, il n'y a pas beaucoup de déchets, hein. Enfin, il n'y en a pas même, hein. Dans la discographie de Napalm Death, c'est un excellent groupe. Donc voilà, je dirais Fear, Emptiness, Despair est peut-être une bonne entrée en réalité pour des gens qui voudraient s'intéresser à Napalm Death. Pour le 15e album de cette sélection, je vais parler d'un groupe suédois que j'ai beaucoup aimé, que j'ai aimé passionnément, et qui m'a beaucoup déçu en changeant d'orientation musicale. Je fais partie des gens qui n'ont pas apprécié leur... virage il y a 10 ans, donc avec l'album Heritage, donc vous avez compris que je parle de OPEF, le groupe de Michael Åkerfeldt. Dans leur première partie de carrière, OPEF a sorti que des albums extraordinaires, donc c'est dur d'en choisir un, mais si je dois vraiment en sortir un, si je dois en amener un seul sur une île déserte, ce sera celui-là, ce sera Still Life, qui est sorti en 1999. Alors, j'ai dit pendant longtemps que mon album préféré d'OPEF était My Arms, Your Earth, mais je pense que au fil du temps, l'aspect plus progressif, l'aspect plus subtil, l'aspect plus complexe de Still Life, qui est un concept album, est davantage ancré en moi. Donc voilà, pour moi, c'est un album essentiel que je connais par cœur, j'en connais la moindre note. C'est un album alambiqué, complexe, progressif évidemment, mélodique, qui est une sorte de montagne russe émotionnelle. Alors souvent les gens parlent d'OPEF, les gens qui connaissent mal OPEF en parlent comme un groupe qui alterne des parties death metal avec des parties calmes. Alors je trouve ça extrêmement réducteur, c'est complètement faux, c'est un groupe qui amène la partie qu'il faut au bon moment. C'est un groupe qui sait faire varier les émotions pour entraîner l'auditeur avec lui, pour peu que l'auditeur soit réceptif, évidemment il y a des gens qui ne sont pas réceptifs, qui ne voient que l'aspect... on va dire technique et mécanique de la musique, qui ne perçoivent pas l'émotion à l'intérieur. Et Still Life, c'est un condensé d'émotions. Alors techniquement, c'est intéressant de l'étudier aussi, c'est parce que la technique, le jeu, la compo, c'est, pour moi, c'est digne d'être étudié dans les écoles de musique. Mais ce que j'en ressors, c'est l'émotion que ça provoque. Donc dedans, il y a de la tristesse, il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a de l'injustice, il y a tout. Il y a tout ce que raconte l'histoire, en fait, qui parle d'un homme qui retourne dans son village après avoir été banni pour avoir eu une relation avec une jeune femme qui était mariée ou je sais pas quoi, et qui retourne en réalité à sa perte. Voilà, ça pourrait être un scénario de film, il s'avère que c'est un album de musique, et un album qui est incontournable et qui, moi, fait partie des albums essentiels dans ma discothèque. Et voilà qui conclut ce premier épisode de Olympus avec 15 premiers albums, donc voilà, il y en aura 15 autres dans le suivant. Alors dites-moi ce que vous pensez de ce format, est-ce que ça a un intérêt, est-ce que vous avez envie d'écouter ça? Je ne suis pas absolument persuadé que c'est un bon concept, donc faites-moi savoir ce qu'il en est, et puis si ça ne vous intéresse pas, j'arrêterai, et puis voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, je trouve ça, pour ma part, assez sympa de partager un petit peu ce que sont mes goûts. Alors là, comme je le disais au début, il y a beaucoup d'albums des années 90, mais évidemment, ça ne va pas se limiter à ça. Il y aura des albums récents, des albums des années 2000, des albums des années 80, voire 70, etc. Je vais couvrir une palette assez large, et il y aura sans doute aussi des albums hors métal qui ont soit participé à au développement de ma culture musicale, soit que je considère être des albums qu'un amateur de métal peut apprécier. Voilà, donc si cette série continue, eh bien, on va se retrouver au bout d'un moment avec quelques centaines de disques qui constitueront ce que je pourrais qualifier de la discothèque idéale pour Le Secret des Dieux. Voilà, c'est tout pour cette fois. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout si vous entendez ces paroles. À très bientôt, vous êtes dans Le Secret des Dieux.